France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Des personnalités françaises figurent dans les nouveaux documents de l'affaire Jeffrey Epstein, parmi lesquels Jack Lang. L'ancien ministre de la Culture assume ses liens passés avec le financier, mais rien ne laissait supposer ses crimes, ajoute le ministre. Nous ferons le point avec Valérie Cantier dans un instant. L'Iran prêt à négocier avec les États-Unis sur le nucléaire. Le président iranien prend le contre-pied des déclarations précédentes de Téhéran, le doigt sur la gâchette face à la menace militaire américaine. L'analyse à suivre de Christian Chéneau. En France, le budget 2026 en passe d'être définitivement adopté après le rejet attendu de deux motions de censure ce soir à l'Assemblée. Sébastien Lecornu est déjà passé à autre chose, nous dira Rosalie Lafarge. La bataille des élections municipales, un combat solitaire pour la France insoumise, faute d'alliance générale avec les autres forces de gauche. Nous verrons cela avec Adrien Toffoli. Quel rapport y a-t-il entre la future reine de Norvège, Mette Marits, et le président du comité d'organisation des prochains Jeux Olympiques de Los Angeles, Cassie Wasserman? Eh bien, tous deux figurent dans les nouveaux documents Epstein révélés par le ministère américain de la Justice. On y trouve aussi un conseiller du gouvernement slovaque, Miroslav Lajcak, contraint de démissionner face à ces révélations, car ces trois personnalités avaient développé une vraie proximité avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019. Nous sommes avec Valérie Cantier de l'agence de vérification de Radio France. Bonsoir.
Bonsoir.
Valérie, on trouve également des Français dans ces nouveaux documents Epstein, des personnalités dont les liens avec le financier new-yorkais posent question.
Oui, alors d'abord, il y a le Français Jean-Luc Brunel qui revient très régulièrement, le plus régulièrement d'ailleurs, dans les documents. Patron d'une agence de mannequins, c'est lui qui a par exemple révélé Sharon Stone. Brunel apparaît comme le fournisseur, si l'on peut dire, de filles mineures et majeures pour le réseau Epstein. Poursuivi par la justice française, Brunel s'est suicidé en prison en 2022 avant d'être jugé notamment pour viol sur mineur. Et puis, il y a celle qui a attiré de nombreuses collégiennes et lycéennes dans ce réseau pédocriminel. Elle est française aussi, il s'agit de Ghislaine Maxwell, le bras droit d'Epstein, condamné à 20 ans de prison aux États-Unis et qui possède trois nationalités.
Et puis Valérie, des personnalités politiques françaises apparaissent dans ces nouveaux documents.
À commencer par Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture. En 2019, Jack Lang invite Epstein aux 30 ans de la pyramide du Louvre. Il lui propose aussi un projet de film en partenariat avec Serge Moati. Les emails révèlent une certaine proximité entre Lang et Epstein. Jack Lang a publié un communiqué cet après-midi en assumant ses liens avec Epstein, mais en affirmant ne pas avoir eu connaissance des actes criminels de ce dernier. Autre nom, celui de Marine Le Pen, indirectement. Steve Bannon, ex-stratège de Donald Trump, a demandé en 2018 à Epstein des financements pour le Rassemblement national après une rencontre avec Louis Alliot, alors mari de Marine Le Pen. L'ex-conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, également Olivier Collomb, a échangé quant à lui de nombreux emails, dont certains très salace et raciste avec Epstein.
Valérie, il faut rappeler que Jeffrey Epstein était très présent en France, qui était presque devenu son deuxième pays.
Absolument. À Paris, Jeffrey Epstein était un habitué de l'hôtel Bristol tout d'abord, avant d'acheter un hôtel particulier avenue Foch, où il a reçu de nombreuses mineures au prénom français et de nombreux invités pour des dîners mondains. Sa banque HSBC, localisée à Paris, a fermé ses comptes en 2007 après avoir repéré des mouvements suspects. Et enfin, sur les plans de vol de son avion privé, on voit de nombreuses destinations françaises où se sont rendues des filles mineures également, Nice, Marseille ou encore Cannes.
Explication signée Valérie Cantier, agence de vérification de Radio France. Malgré ces millions de nouveaux documents rendus publics, le ministère américain de la Justice exclut à ce stade de nouvelles poursuites pénales. Selon le ministre adjoint Todd Blanche, je cite, « Cela ne nous permet pas nécessairement de poursuivre quelqu'un et c'est ce qui importe au peuple américain. » Todd Blanche, qui est l'ancien avocat personnel de Donald Trump. Face à la menace d'une intervention militaire américaine, l'Iran continue à souffler le chaud et le froid. « Nous avons le doigt sur la gâchette », avait averti le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Arachi. « S'il déclenche une guerre, ce sera une guerre régionale », avait renchéri hier le guide suprême Ali Khamenei. Changement de ton, aujourd'hui, le président iranien ordonne l'ouverture de pourparlers avec les États-Unis sur le nucléaire. Alors, comment faut-il interpréter ces propos? Élément de réponse réponse avec Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France.
Même s'il n'est pas décisionnaire, c'est le président Massoud Pezeshkian qui a officiellement donné son feu vert au pourparlers avec les États-Unis, feu vert qui en réalité vient du guide suprême Ali Khamenei. Le lieu et la date de ces discussions n'ont pas encore été fixés. Un cadre sera finalisé dans les prochains jours, a fait savoir le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La méthode de ces négociations doit encore être validée. Plusieurs pays régionaux, la Turquie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, jouent les médiateurs entre Téhéran et Washington pour faire passer les messages. Il est probable que ces futures discussions se déroulent entre Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Abbas Araghchi, le patron de la diplomatie iranienne. Deux hommes qui se connaissent très bien puisqu'ils avaient mené plusieurs sessions de négociations en juin l'année dernière, juste avant les bombardements d'Israël et des États-Unis contre les sites nucléaires de la République islamique. À ce stade, on ne sait pas si les futurs pourparlers porteront non seulement sur le programme nucléaire iranien, mais aussi sur son programme balistique. Les Américains voudraient interdire toute capacité d'enrichissement d'uranium à l'Iran. C'est la clause du zéro enrichissement, inacceptable pour Téhéran, qui en réponse propose zéro bombe nucléaire, l'Iran conservant le droit à l'enrichissement pour du nucléaire civil.
Il reste que la possibilité d'un accord sur le nucléaire ne suffira pas à effacer la répression du mouvement de contestation début janvier en Iran. Au moins 30 000 morts selon les ONG et les médias iraniens d'opposition. Le Royaume-Uni annonce ce soir des sanctions contre 10 responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur et des membres influents des gardiens de la révolution islamique, les Pasdaran. La semaine dernière, l'Union européenne avait inscrit les Pasdaran sur sa liste des organisations terroristes. C'est la plus prestigieuse salle de spectacle vivant à Washington. Eh bien, le Kennedy Center va fermer ses portes pour 2 ans. Donald Trump a annoncé hier de grands travaux de rénovation, car le président américain s'est littéralement emparé de cette institution culturelle emblématique, désormais boudée par de nombreux artistes. Franck Madvon, vous êtes notre correspondant à Washington. On peut se demander, Franck, si cette fermeture pour travaux ne masque pas le fiasco de la gestion Trump du Kennedy Center.
Jeudi soir encore, au Kennedy Center, Donald Trump assistait avec son épouse à la projection en avant-première du documentaire Melania, consacré à la Première Dame. C'est aussi dans cette salle que le président a reçu son prix FIFA de la paix à l'occasion du tirage au sort du Mondial, ou qu'il a lui-même présenté la cérémonie de remise des prix du Kennedy Center, soirée qui a couronné Sylvester Stallone ou Gloria Gaynor. Donald Trump a voulu faire de ce lieu culturel sa salle de spectacle. Le conseil d'administration qu'il préside, la renommée Trump Kennedy Center, son ami Richard Grenell, ex-ambassadeur en Allemagne, en a pris la direction. Des dizaines d'employés ont été mis à la porte. La programmation se veut désormais plus conforme aux goûts américains, comprenez moins de spectacles consacrés aux minorités, par exemple, place aux œuvres classiques. Mais le public fuit la salle, les ventes de billets ont chuté et plusieurs artistes ont rompu les liens avec le Kennedy Center. Dernière en date, Philip Glass, le maître de la musique minimaliste, estime que les valeurs du centre ne correspondent plus au message de la symphonie qu'il devait y présenter en juin, dédiée à Abraham Lincoln. Le Kennedy Center fermera officiellement ses portes le 4 juillet. Les derniers travaux datant de 2019 avaient coûté 250 millions de dollars. Mais le résultat ne satisfait pas Donald Trump.
Franck Madvon, correspondant de France Culture aux États-Unis. La Belgique pense avoir trouvé la solution pour lutter contre la surpopulation carcérale. Elle veut louer des places de prison en Estonie. Deux ministres belges se sont rendus aujourd'hui dans le pays balte avec l'idée d'y envoyer des détenus étrangers en situation irrégulière en Belgique. Fabien Cazot nous appelle de Bruxelles.
En Belgique, les détenus privés de droit de séjour représentent près d'un tiers de la population carcérale totale. Pour eux, le retour vers le pays d'origine reste en général le premier choix des autorités belges. Mais afin d'accélérer le désengorgement des prisons, le gouvernement du nationaliste Bart De Wever réfléchit également à signer des partenariats d'un nouveau genre avec d'autres pays européens. Moyennant finances, ces derniers loueraient à la Belgique des places de prison. L'Estonie, qui en loue déjà quelques centaines à la Suède, pourrait donc aussi en louer à la Belgique, qui a également étudié ces derniers mois d'autres options au Kosovo et en Albanie. L'Estonie, État membre de l'Union européenne, présente tout de même de meilleures garanties en matière d'état de droit, mais l'idée même d'un transfert de prisonniers vers l'étranger suscite aussi de vives réticences en Belgique, notamment de la part des organisations de défense des droits humains, qui posent notamment la question des droits de visite pour les avocats ou les familles de détenus.
D'ici quelques heures, la France devrait enfin avoir un budget. Dernier obstacle, deux motions de censure examinées en ce moment à l'Assemblée. Mais sauf énorme surprise, elles ne renverseront pas le gouvernement de Sébastien Lecornu. Ce qui signifie que le projet de loi de finances 2026, le fameux PLF, sera considéré comme adopté dans la soirée et le Premier ministre pourra passer à autre chose. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
En réalité, Sébastien Lecornu l'a déjà tourné la page du budget.
Oui, parce qu'il sait que le temps va filer, qu'il n'a toujours pas de majorité et que le calendrier parlementaire est limité. Il va y avoir une pause pour les municipales de mars. La campagne présidentielle risque ensuite de prendre beaucoup de place. Le Premier ministre a donc déjà commencé une série de déplacements à thème.
Il y a quand même des grandes urgences dans le pays qui ne pourront pas attendre le grand débat de 2027. Et qui nécessite, de la manière la plus transpartisane possible, de trouver des solutions dès maintenant.
Dans sa liste, le logement, l'énergie, la Nouvelle-Calédonie, la loi de programmation militaire, l'agriculture, bien sûr, en haut de la pile avec le salon qui arrive et une loi d'urgence déjà promise. Et puis, la décentralisation évoquée dès sa prise de fonction.
On m'a beaucoup dit que cela prendra du temps. On m'a beaucoup dit que le Parlement était trop divisé pour s'entendre sur ce sujet, notamment à l'Assemblée nationale. Je pense tout le contraire. C'est précisément parce que cela prendra du temps qu'il faut engager cette réforme tout de suite. Sinon, elle sera reportée une fois de plus. Et jusqu'à quand ? Nous n'attendrons pas.
Envisagé au départ pour avant les municipales, ce texte sera sans doute finalement présenté après. Mais ce marathon budgétaire enfin terminé, Sébastien Lecornu veut montrer qu'il n'est pas là pour regarder les trains passer. Ses ministres non plus.
Moi, j'ai dit au ministre que le gouvernement, il n'avait qu'une seule chose à faire, c'était s'occuper de l'essentiel.
Et l'essentiel pour le Premier ministre ne peut pas être 2027. Il a déjà préparé les esprits à un mini-remaniement pour acter notamment le départ de Rachida Dati, lancé dans la course à la mairie de Paris. Sébastien Lecornu doit aussi voir Gérald Darmanin demain, lui qui admet, à propos de la présidentielle, y songer.
Décryptage signé Rosalie Lafarge, merci. Après l'interminable séquence budgétaire, c'est la campagne des élections municipales qui va désormais occuper le paysage politique, un paysage toujours plus divisé. À un mois et demi du scrutin, à gauche, il y a eu certes de très nombreuses alliances nouées ces dernières semaines, mais sans la France insoumise dans la plupart des cas. Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Même isolé, le parti de Jean-Luc Mélenchon assume une stratégie de conquête locale.
Oui, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de nouer des alliances avec les autres forces de gauche. Un temps même, la direction des Insoumis a nourri l'ambition de nouer avec les écologistes un accord national pour ces municipales. Mais ces derniers se sont finalement, la plupart du temps, entendus avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste, tous trois ayant déjà l'habitude de travailler ensemble dans les conseils municipaux. Et LFI a donc déployé un plan de conquête ambitieux des listes dans 85% des villes de plus de 30 000 habitants et dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Pour les porter, les Insoumis misent notamment sur leurs figures les plus médiatiques, leurs députés. Ils sont 19 sur 71 à s'être lancés. Sophia Chikirou à Paris, Sébastien Delogu à Marseille, François Picmal à Toulouse, Ali Diaouara à La Courneuve ou encore David Guiraud à Roubaix. Mais à l'exception de Roubaix, qui est bien parti pour être la grande conquête des Insoumis, peu de villes sont en réalité gagnables. Si on remporte une seule ville de plus de 30 000 habitants, ce sera déjà une grande victoire, assume le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard.
Les Insoumis qui espèrent donc le meilleur score possible au municipal, car ils ont en tête les prochaines échéances électorales, Adrien.
Oui, les sondages leur prédisent peu de victoires, mais des bons scores dans de très nombreuses communes. Ce qui signifie pour les Insoumis, comme l'explique leur responsable des élections, le député Paul Vanier, rentrer massivement dans les conseils municipaux. Ces élus municipaux ont deux bénéfices, renforcer la position des LFI dans un certain nombre de territoires, en Ile-de-France, en particulier en Seine-Saint-Denis, dans le Nord également, et de façon générale, dans leur implantation urbaine, dans toutes les grandes agglomérations du pays. Et puis, plus ces élus locaux seront nombreux, plus les Insoumis auront des chances d'avoir enfin des élus au Sénat en septembre prochain. Enfin, l'enjeu pour les troupes de Jean-Luc Mélenchon, c'est de décliner le programme des Insoumis au niveau local, ce qu'ils appellent le nouveau communalisme à base de démocratie citoyenne, de planification écologique ou encore de renforcement des services publics. Tout cela nourrissant, bien entendu, ce qui demeure la plus grande priorité chez LFI, la bataille présidentielle.
Adrien Toffolet, merci. On rappelle les dates des élections municipales, les dimanches 15 et 22 mars prochains. La CGT y voit le retour du CPE, le contrat première embauche que Dominique de Villepin avait échoué à mettre en place en 2006. Le MEDEF propose un CDI jeune qui pourra être rompu sans motif pendant les premières années. L'organisation patronale défend un outil susceptible, selon elle, de lutter efficacement contre le chômage des jeunes dont le taux ne cesse d'augmenter. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Stanislas.
Depuis 50 ans, le chômage des jeunes est structurellement plus élevé en France que dans la plupart des pays européens. Et la tendance ne s'inverse pas, Wafia.
Oui, Stanislas, avec une catégorie qui augmente tout particulièrement. On les appelle les NEETS, ni en emploi, ni en études, ni en formation. Pour le MEDEF, il représente 12% des 15-29 ans. Ce CDI jeune serait donc un moyen de rassurer les employeurs et d'offrir une chance à ces primo-salariés sans perspective. Ce dont doute Lydie Nicole de la CFDT.
On se trompe de sujet et on se trompe de solution, si on pense que c'est ça. Donc il faut regarder à la fois la qualité de l'emploi dès le premier emploi et un regard particulier sur la période d'intégration lors du premier emploi qui est nécessaire justement pour sécuriser les parcours. C'est la population, les jeunes, c'est la population la plus touchée par les contrats courts. Derrière l'emploi des jeunes, il y a le sujet de la qualité de l'emploi.
Des emplois courts en hausse, des CDI en baisse et des effets sur les tranches des 15-24 ans avec 18% de taux de chômage. Cela est à mettre en lien avec le ralentissement économique, selon Marion Monchausset, maître de conférence à l'Université catholique de Lille.
Il y a eu des choses qui ont été mises en œuvre, notamment pour les contrats de professionnalisation, hein, pour recruter et essayer de faire perdurer, enfin voilà, de former en interne, de garder justement ces jeunes pour ensuite leur proposer des CDI, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, oui, ça a limité le taux de chômage pendant quelques années. Et puis, finalement, dès qu'il y a un ralentissement de l'activité économique, en fait, ces jeunes-là, ils sont pas forcément gardés.
Des jeunes actifs qui restent encore sur le marché du travail, une variable d'ajustement.
Merci Wafia Kenich, service économique de France Culture. Le compte à rebours est lancé avant les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina en Italie. La cérémonie d'ouverture aura lieu vendredi soir pour ces JO d'hiver qui se veulent écologiques. Alors si la plupart des sites utilisés existaient déjà, le budget a littéralement explosé. Il est passé de 1,5 à plus de 5 milliards d'euros. Une centaine de chantiers engagés au total. Difficile dans ces conditions de parler de JO verts comme le montre ce reportage de Bruno Duvic dans la région de Cortina, dans les Dolomites.
L'écologiste Silverio Lacedelli nous montre la piste de bobsleigh, des centaines de mélèzes abattus.
Même pendant la Première Guerre mondiale, quand des milliers de soldats avaient besoin de bois, on n'avait pas touché à cette forêt.
Cette construction a coûté 120 millions. Le jour du passage de la flamme, deux tunnels ont été inaugurés dans la montagne près du village de Gabriella.
C'est sûr, il y aura moins de circulation pour nous qui vivons ici. Les camions prendront les tunnels, on pourra profiter d'un air plus respirable.
Les jeux favorisent l'aménagement du territoire, mais 2 millions de mètres cubes de neige artificielle ont été utilisés pour les pistes. Luigi Casanova, de l'association Mountain Wilderness.
À Livigno, où il y aura le snowboard, ils ont construit un immense bassin de rétention de 200 000 mètres cubes à 2600 mètres d'altitude. Il n'y a pas de JO écolo dans les Alpes.
Au comité d'organisation, Diana Bianchetti répond : la neige artificielle garantit la sécurité sur les pistes, les sites sportifs réaménagés sont moins énergivores.
Les jeux sont le plus écolo possible. Oui, il faut s'adapter au changement climatique, mais le bilan se fera après.
Le trafic aérien doit augmenter de 160% par rapport à l'an dernier, pendant la quinzaine.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture en Italie. La France a connu un mois de janvier particulièrement pluvieux et pour sa première semaine très froid, dans un contexte de réchauffement climatique qui reste de mise. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Météo France dans son bilan du mois de janvier. Malgré un mercure négatif et jusqu'à 10 degrés sous les normales durant la première semaine de janvier. À l'échelle du mois entier, la température moyenne nationale est restée proche de la normale. Cette température moyenne a été de plus 0,3 degrés par rapport à la moyenne habituelle. Le temps demain, ce sera gris et pluvieux sur la plupart des régions. La Charente-Maritime et la Gironde sont en vigilance orange pour les crues. Il neigera en montagne des 800 mètres sur le Massif central et des 1200 mètres sur les Alpes. Les températures minimales iront de 0 à 8 degrés. L'après-midi, il fera entre 7 et 11 degrés en général. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck. À la technique, il y avait Anthony Thomasson.